Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Aujourd'hui, je parle avec Laurent Quignette, surnommé Bretzelman. Vous trouvez qu'un Ironman 70.3, c'est quand même classe? Vous rêvez de faire un Ironman? Laurent, lui, fait des doubles, triples, voire même déda Ironman, soit 5 fois la distance. Je ne vous fais pas un dessin, il faut avoir le cœur et la tête solidement ancrés pour encaisser un truc pareil. Et sans plus attendre, Laurent Quignette. Laurent, 38 km de natation, 1800 km de vélo, 422 km de course à pied. C'est quoi ton problème?
J'ai pas de problème. Y a aucun. S'il y avait un problème, je l'aurais fait qu'une fois et pas trois fois. Y a pas de problème. Si j'avais fait ça en étant fou.
Alors pour un fou, c'est les autres qui sont fous. Mais là, ta réponse, j'ai l'impression que t'es complètement givré quand même.
Non, si tu es fou, tu fais qu'une fois. C'est-à-dire que tu vas non préparé. Si tu y retournes, c'est que t'as compris comment ça fonctionne. Donc non, c'est pas.
Peut-être que t'as pas encore tout à fait compris, mais que t'as envie de savoir quand même.
Ouais, découvrir d'autres choses. Mais j'ai, bon, mon parcours, je viens du très très court, donc je sais ce que c'est aussi de très très court.
Donc, c'est quoi le très très court?
Ah bah moi, je viens de l'athlétisme, hein, je démarrais par des 80 mètres, des 100 mètres, puis tennis professionnel, donc une forte prépa de course de vitesse, de fractionné, donc tout l'opposé de l'ultra, bien que dans le tennis, des matchs marathon, ça me... Je connaissais aussi. Des matchs de 3, 4 heures, 5 heures, je connaissais. Donc, je viens du très court. Hein.
Maintenant, avec l'expérience, avant une course, est-ce que tu as la sensation de t'attaquer à une montagne avec un cure-dent?
Ah oui, ben je suis anxieux. Alors, pas stressé, mais anxieux. Toujours envie de bien faire. Et si un jour je suis plus anxieux, j'arrêterai. Ça veut dire que j'ai plus ce... ce stress, enfin cette anxiété, donc cette peur, si ça devient une routine, donc plus je m'entraîne, plus le cure-dent grossit, on va dire. C'est vrai. Et là, en plus, je suis obligé de, pour la première fois depuis 40 ans de sport continu, ça veut pas dire que je fais rien, au contraire, je fais peut-être encore plus d'activités, mais je construis donc la maison, on y reviendra. Donc je ne fais pas de compétition cette année. J'organise, du coup ça me démange encore plus, donc ça devrait me redonner un petit
coup de boost.
Ouais, un petit boost. Bon, bien que je... Mais le cure-dent, la première fois, je pense qu'il y avait cette part d'inconscience, comme tu disais, peut-être qu'il fallait un peu de folie, de découverte. Oui, je pense. La première fois, je pense, sincèrement, oui. Les fois d'après, tu te prépares différemment. Il y a des choses que tu fais moins. Parce que je suis plutôt comment dire? J'aime le sport, en fait. Donc, facilement, je vais faire beaucoup de volume. Trop. Trop. Même trop. Donc, des fois, j'ai même dû réduire. Grâce à un accident, d'ailleurs, pour y revenir, des personnes m'ont aidé à être plus raisonnable à certains points, quoi, pour être mieux préparé. Des fois, c'est pas forcément faire trop. Et donc maintenant je suis plus préparé, donc le cure-dent devient plus gros. Mais bon, si tu t'attaques, ça dépend de la distance, un double, ça va maintenant, on va dire, ça va. Quand tu commences à taquiner le quintuple ou le déca, de toute façon, je crois que tu pourrais faire n'importe quoi. T'arriveras au départ d'un déca, t'auras toujours l'impression que c'est jamais assez.
Comment tu gères ? Ça signifie quoi ? Je suis stressé et je suis anxieux avant une course. Avec des mots, comment tu déplies ces deux termes un peu flous, vaporeux et valise de stress et d'anxiété ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, bon, déjà,
qu'est-ce que tu dis la veille de la course, t'es stressé, t'es anxieux, quelles sont les pensées?
Bon, alors, déjà, stressé, non, mais je suis quelqu'un de très calme, plutôt posé. Voilà. Anxieux, oui, c'est intérieurement, ben, je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier, je sais pas combien de fois, mon matériel, si j'ai tout. Si dans ma nutrition, pour mon équipe qui va me suivre, tout est bien ordonné, rangé, tout en gardant le plan B. Parce qu'il faut, alors moi, je suis un peu un hybride entre Guy Rossi, alors, qui a fait plein de décas, mais qui était psychorigide, mais du coup, pas très ouvert, du coup, il gagnait pas. Et à l'inverse, Manu Corot, qui lui était que au feeling. Du coup, ça passait pas. Moi, je suis entre les deux. J'ai une partie de calcul avec mes feuilles de passage. Et puis, quand même, je garde beaucoup de feeling aussi. Si je sens que là, il faut y aller, il faut y aller. Et à l'inverse, si je vois que ça va pas, il faut partir. Donc l'anxiété, ça va être me répéter plein de fois les choses, vérifier plein de fois, me remémorer et me dire la question pareille, on n'y arrivera pas, ça passera pas. Regarder mes adversaires, parce que bon, pour l'instant j'y vais toujours pour gagner ou être bien placé. Donc forcément il y a ça. Eux ils vont faire comment ?
Tu regardes encore tes adversaires après toutes ces années, toute cette expérience et le tennis de haut niveau, t'as pas appris que le gars en face ça ne compte pas et que le gars à côté ça ne compte pas ?
Mais évidemment, il compte pas. Mais c'est vrai, il faut pas. Alors surtout sur l'ultra, il faut pas s'occuper des autres avant au moins. Bon, ça dépend le sport de prédilection, mais moi, on va dire au moins. On va dire la natation, c'est pour rester dans le coup. Le vélo, c'est pour se placer. Moi, la course à pied, c'est pour gagner. On va dire en gros, c'est ça. Faut pas arriver avec trop de retard. Mais si je regarde quand même l'adversaire, savoir. Bon, par exemple, si je sais qu'il est très fort à vélo, bon, je vais essayer du coup de pas. Je vais le garder en point de mire pour pas trop prendre de retard, même si ça me demande plus d'efforts au détriment de la course à pied, tu vois, je vais essayer de garder un contact, d'analyser un peu, me disant, s'il part fort à vélo, bon, je prends un cas très typique, un gars de l'armée russe, sur un DK, bon, après, il nous a montré, il nous avait tout étudié, mes autres DK d'avant, un tableau, mais mieux que les miens, de mes courses d'avant. Le mec, il a fait le record du monde en natation, il est parti à vélo sur des puissances, j'ai dit, mais il ne tiendra pas. J'ai dit, là, je savais qu'il était très fort à vélo, je cherche pas à suivre. Et vu le gabarit, je me suis dit, bon, à pied, ça va exploser. Bon, finalement, c'est à vélo qu'il a explosé. Parce que, il s'est explosé le ménisque à vélo. Tellement qu'il forçait, mais c'était des 600 bandes par 24 heures. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas humain. Effectivement, ça a pété.
Ça va encore.
Tu cherches quand même toujours à voir l'adversaire. Parce qu'à l'inverse, tu dis, je veux pas le suivre parce qu'il est fou, quoi. Et à l'inverse, si tu sais que c'est, faut rester. Et c'est comme ça, c'est l'anxiété, tu vas quand même essayer de te positionner, voir comment il faut faire. Et je me dis, ah merde, il va me pousser dans mes retranchements à vélo, alors que là, je pourrais être plus en confort à vélo. Et puis, c'est d'oublier quelque chose, et puis de pas y arriver, hein, tout simplement, de pas y arriver.
T'as encore peur de pas y arriver?
De pas gagner, mais de pas y arriver.
Alors?
Et c'est toujours comme ça.
Tu regardes tes adversaires, tu calques ta course, entre guillemets, sur eux, et t'as peur de pas y arriver. Est-ce que c'est bien raisonnable? À ton âge?
Non, c'est pas
vrai. Je te le dis comme ça parce que je sais que je suis plus vieux que toi, alors je peux me permettre.
Oh, pas beaucoup.
Bah, t'as quel âge?
46, bientôt.
Gamin, là.
Ouais.
Bon, je vais avoir 47, mais quand même.
Ah, bah là. Moi, j'ai 46 dans un mois, un peu moins d'un mois. Donc, tu vois, non, j'ai pas beaucoup.
Non, j'ai 47 dans 3 mois.
Ah, bah, tu vois, voilà.
Voilà. Donc, on se calme. Voilà. Voilà. Bon, alors.
Non, c'est pas raisonnable. Mais une fois par contre,
c'est pas raisonnable quand même. C'est pas raisonnable.
C'est lancé, par contre, tout ça, ça disparaît.
Ah. Est-ce que tu peux louper une course? Est-ce que tu peux louper une course en étant justement un peu submergé par ces parasitages? Les autres, le russe, regarde comme il est gaulé, il va envoyer du bois à vélo.
Non, non, non. Oui, ça toujours, mais quelque part, c'est marrant, je le dis. Quand c'est très long, hein, je le dis, mais quelque part, en fait, ça me motive et ça me fait rire, en fait. J'en arrive à me donner à rire de ça. C'est qu'en fait, je m'étais fait tout un flanc avant, et puis quand la course démarre, tout ça, ça passe un peu à l'as. Même des fois, je me fais même engueuler par mon équipe, parce que je leur donne des temps de passage. Et par exemple, quand la course se déroule, par contre, j'essaie toujours d'analyser la course. Bah, par exemple, je prends le gars de l'armée rouge, je savais qu'il allait nous anatomiser, puis au bout d'un moment, quand j'ai vu tellement c'était aberrant, j'ai dit, hop, stop. Alors, je me faisais engueuler, mais t'as vu l'entraînement? J'ai dit, mais moi, je suis sur le terrain, je vois, je roule face à lui, je le vois, je crois que souvent, je vois comment il est, et je veux pas être comme lui. Donc, j'ai dit, non, laissez-moi faire, là, je sais ce que je fais. Et là, volontairement, je ferai même moins, enfin, dans mon truc, parce que je sais, j'ai compris que je poserai le vélo, ma tactique, c'est très, je poserai le tout de suite, et moi, tout de suite, j'irai même pas me doucher, j'irai lui mettre déjà un marathon dans la vue, pour lui casser le moral. C'est ce que j'ai fait à chaque fois, j'ai dit, je me prépare déjà, au coup d'après, être efficace. Donc, non, une fois que la course est lancée, oui, j'analyse, mais ce sera pas du tout ce que j'avais prévu à au niveau de l'anxiété. De toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Jamais.
Donc, même ton équipe est dans ce petit mouvement de panique, regarde les autres, ils roulent comme ci, ils courent comme ça. Même ton équipe, t'as pas réussi à les canaliser, à les détendre un peu.
Bah, non, parce que celui qui me gère, et c'est grâce à lui que j'ai gagné des courses, que je me suis mis à gagner des courses du ultra, donc je peux pas lui en vouloir. C'est un rugbyman, il s'occupe de l'équipe de France de rugby, il s'occupait de son fils, qui est président du Racing Club de Strasbourg, de rugby. Donc c'est un rugbyman. Donc un rugbyman, c'est quelqu'un qui va au contact. Et mes premiers décas, quand c'était la galère à la fin, et c'est aussi mon ostéo, aussi. Donc, mais un ostéo pas comme les autres, c'est vraiment un ostéo qui a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et que je fais souvent encore beaucoup, beaucoup de monde. Et, donc c'est quelqu'un qui avec ce tempérament rugbyman, non, il faut y aller. Lui c'est il faut y aller. Mais quand je lui dis par exemple là non je sais ce que j'ai, bon par contre au bout d'un moment il va comprendre, il va dire ok. C'est par des chants de rugbyman ou des techniques de rugbyman parce qu'il considère notre sport. Par exemple il me traite à l'arnica parce qu'il est anti-médicaments et tout ça et nourriture naturelle. Il me traite, on va dire, à l'arnica comme le rugbyman. C'est-à-dire qu'en fait, il nous prépare aux hématomes internes qu'on va avoir avec les chocs en course à pied sur aussi long. Il me traite de la même manière. De la même manière. Et en cas de choc ou hippo, de la même manière. Avec, il te fait respirer de l'ammoniac comme ils font au rugby quand ils prennent des chocs. Quand tu les vois, tu sais, dans les mêlées, ils prennent des chocs. Quand tu les vois sur le côté, souvent, ils leur mettent la main et la nuque. Ils leur font comme ça, puis tu les vois faire ça. Ben, en fait, ils respirent juste de l'ammoniac. Ça réveille.
Donc il est anti-médicament, je comprends qu'il travaille pas avec ton pote russe.
Ah ouais, non, il est anti-médicament, il me fait manger en course comme un bébé, au rythme d'un bébé, tous les trois quarts d'heure, un gobelet de bulgur, quinoa. Ah ouais, non, il est anti. Faut dire, j'avais un problème aux yeux à mon troisième décan en Suisse. Ça, je faisais une allergie, conjonctivite en sortant de l'eau. Il m'a fait venir, bon là, c'est parce que c'était à 200 km, il m'a fait venir d'Alsace des myrtilles sauvages. Il m'a dit, mange, alors moi, je dis, mais tu m'as imbécile, je veux pas mettre des myrtilles sur les, mais non, mais mange-les, c'est de la vitamine D, tu vas voir, ça va passer. Manger des myrtilles, en roulant avec eux. Au bout de 4 heures, c'est passé. Ah non, c'est le meilleur truc, hein, parce que sur des sports très longs, il faut être le plus naturellement possible, hein, parce que sinon, bah, soit l'estomac part en cacahuète, soit tu fais des hauts et des bas. Donc, le plus naturellement possible.
Laurent. Après ces 23 premières minutes tonitruantes, il faut que je te pose la question quand même. Où commence le mental? Est-ce que t'attends d'être au fond du trou, du gouffre, au cœur des ténèbres pour te demander quoi faire? Ou est-ce que ça commence? Est-ce que ça commence quand on construit sa propre piscine? T'as vu un peu la transition? Tu l'as noté? Tu l'as vu venir celle-là?
Oui, je la vois venir. Bon, déjà, le mental, ça se prépare à l'entraînement. En fait, c'est tout le temps. Je pense que c'est une philosophie. Le sport, j'ai beaucoup utilisé pour mon travail, pour mon métier, qui est particulier. Comme j'utilise les 3-8 de mon métier pour gérer mon sommeil aussi, j'utilise ça. Effectivement, ouais, je vois où tu en venir. Actuellement, j'ai démarré maintenant, il y a 7 mois, la construction de la maison. C'est pas la première, mais celle-là, c'est le projet, le dernier, le projet le plus complet, de A à Z, du terrassement de nous-mêmes, à creuser les fondations, monter les murs. Et comme je construis un peu plus loin de Colmar et que j'aurais pu accéder aussi facilement à la piscine et faire des bornes en voiture pour aller à la piscine, bon, c'est pas ça très cool. Ben, j'ai décidé de non seulement construire une piscine, mais pour nager, il faut un couloir de nage. Donc, j'ai décidé de construire un couloir de nage. Donc encore aujourd'hui, tu vois, j'ai fait des longueurs de piscine à pied, en train de poser des ferrailles des agglos, parce qu'effectivement, la ligne de nage fait quand même 20 mètres. Bah oui, parce que sinon, j'allais pas nager. Et le contre-courant, je suis pas tapis de course. C'est insupportable pour moi. Je suis pas home trainer. J'en ai un simulateur après mes accidents au quai, mais sinon, c'est une horreur. Je préfère dehors dans le froid avec mes gants chauffants, mes chaussettes chauffantes, mais je préfère. Et alors, nager sur place, alors que j'ai la montagne à côté de moi, le petit ballon, je nageais tout seul, je pas nager avec des potes, au moins les potes peuvent venir nager. Donc oui. Donc le mental démarre là, parce qu'on a construit qui pleuve, qui vente, qui neige, qui gèle. On y est, ou qui faisait très chaud à l'inverse, c'était pire. Ça commence là. Donc le mental, après, pour faire la transition, effectivement, répondre à la transition. Mais pour en venir au mental, le mental, il vient à l'entraînement, notamment en entraînement, je fais des choses que je n'aime pas faire. Par exemple, je fais des 24 heures. Je n'aime pas ça. Je suis pas formé pour faire des 24 heures. J'en organise, tu vois, mais moi, je suis prévu pour courir le plus possible une distance, mais pas le plus de distance dans un temps donné. Pour moi, c'est terrible. Donc ça, c'est mettre le mental à mal. Et puis, le mental démarre non bien avant, pas quand ça va mal. Justement, je fais tout pour pas en arriver à en avoir mal, pas avoir mal et pas souffrir, contrairement à ce que plein croient. Ils me disent, ah, ça te fait plaisir, t'aimes bien souffrir. Ben, je dis non, jamais de la vie, non, je n'aime pas souffrir. C'est pour ça que des fois, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais je préfère sur un premier des cas, on a fait une erreur. Comme j'étais, je donnais l'exemple, tout ça. Ça va vite imaginer tout. Pourquoi je voulais pas revenir? Mon premier des cas, dans l'eau, j'ai fait une réaction allergique. Je suis sorti de l'eau. J'avais plus de peau au scrotum. J'ai enlevé ma combi, la peau est venue avec. Donc j'étais déjà le scrotum en sang avant de faire 1800 bandes de vélo. Tu vois, déjà le calvaire. Donc cette même personne, Rubiman, m'a soigné. Tous les 6 heures, je devais m'arrêter, refaire les pansements à l'entrejambe pour faire du vélo 1800 bandes. Donc là, le mental, là. Mais là, c'est le premier. J'ai dit, il faut à tout prix que je fasse, tu vois, là, tout prix. Donc j'ai fait. Mais là, tu souffrais. Et là, j'avoue que je me suis posé des questions. Hein. En plus, il pleuvait, donc ça faisait du sel, tu vois, le bordel, ça faisait du sel entre les jambes, bref, l'horreur. Donc j'ai pris beaucoup de retard à vélo. Et à pied, ben heureusement, j'ai fait des courses à pied de fou, donc j'ai toujours trop quoi. Et je revenais, je suis même revenu à être deuxième. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai fait une erreur, j'ai posé le pied là où mon ostéo m'avait dit de pas faire. Pas poser le pied sur la plaque d'égout, ça vient décaler. Donc mon bassin se décalait, il a dû me remettre d'équerre. Du coup, mes deux derniers marathons ont été un succès. Parce que j'avais poussé au-delà. Et il me disait, pour remonter, il a fallu que je souffre. Et ça a été un calvaire. Et j'ai pas aimé. Donc, à l'inverse, des cas suivants, alors je précise que le deuxième décal, je l'ai fait en moins de 2 mois après mon premier. Pour gagner la Coupe du Monde. Et c'est ça qui est plus fou. Et là, on a géré différemment. Natation, je sors premier. Et on avait mis réaction pour pas avoir la réaction allergique. J'avais mis de la pâte à bébé entre les jambes, ce qu'on met au bébé, hein, la pâte à l'eau, on appelle ça. J'avais mis ça. Sorti de l'eau. J'avais rien. Je suis monté sur le vélo. J'allais bien. Je savais que l'autre était plus, enfin, l'homme le plus résistant du monde, c'était mon adversaire brésilien. Je savais qu'il était plus fort à vélo. J'ai essayé de le contenir. J'ai réussi parce qu'il roulait très fort, mais il faisait plus d'arrêt que moi. Je dis, moi, je ferai moins d'arrêt. Pour arriver en course à pied, à gérer comme moi, je le pensais. C'est à courir plus vite, même faire les pauses, parce que, course à pied, forcément, le temps debout provoque des inflammations. C'était courir plus vite, pour pouvoir faire des arrêts plus longtemps, pour régénérer et plus supporter. Et c'est comme ça que j'ai fait mon dernier marathon, mon 10e, en moins de 4 heures, et je l'ai bien vécu.
Quel est le lien entre une allergie, une réaction cutanée, et le fait de mettre une protection, une patte de protection? Quel est le lien entre les deux, a priori?
Bah, en fait, je comprends pas bien là. C'était le chlore. En fait, le chlore dans l'eau, avec le froid. Alors, en Suisse, l'eau était très froide. Elle n'est pas chauffée. C'est ce qu'on appelle un Freibad. Donc, ce sont des piscines, mais qui ne sont pas chauffées, qui sont ouvertes que l'été. Et donc, la nuit, on nageait la nuit. Ça démarre à 18h, donc de nuit. Avec, en plus, pas le bassin éclairé par le dessus. Alors, ça te fait des ombres, en vrai. Alors, moi, je suis jamais sorti du bassin. J'ai nagé 3 fois à cette distance. J'ai fait une fois 14h50, 14h56, 14h52. Je suis jamais sorti de l'eau pendant ce temps-là. Et donc, le froid et le chlore, plus l'eau est froide, plus les réactions augmentent. Et moi, ça m'attaque.
14 heures dans l'eau?
14h50, ouais. Sans sortir.
D'accord. À un moment donné, je te redemanderai quel est ton problème, hein, parce que je pense que t'es pas tout à fait au clair. Alors, avec
pour
cette...
répondre tout de suite, je pensais que la piscine allait être le plus chiant qui soit.
Mais
je
oui.
Tu réponds une fois contre la question, mais putain, ça va être chiant la piscine. Ça va être chiant la piscine. En fait, t'as pas le temps. En fait, comme toutes les 40 secondes, tu fais une queue de but. En fait, t'as pas le temps de te poser des questions, t'as pas le temps de réfléchir, faut toujours réfléchir à faire le demi-tour. T'as pas le temps de réfléchir dans le bassin.
Donc en fait, ta stratégie pour faire passer le temps, c'est de penser à la prochaine culbut.
Bah, de toute façon, elle arrive vite. Non, ma technique, c'est pas ça. Oui. Ma technique, c'est que je compte. Alors, moi, je suis un matheux. C'est un scientifique, un pur et dur. Même si avec le temps, j'ai appris à laisser du hasard dans les choses, hein, comme je disais, mais au début, j'étais trop cartésien, on va dire. Mais en fait, je compte ma technique, c'est quand je fais. Alors, je me sers du. Je compte tous les 20, parce que tous les 20 longueurs de 50 mètres, je m'arrêterai boire, et tous les deux fois, manger. Et je compte 20, mais je compte pas 20, 1, 2, 3, 4, non. Je compte pas comme ça. Et comme en même temps, je fais mon rythme, pour avoir mon rythme de crawl, c'est, par exemple, quand je suis dans la première série de, enfin, la première longueur de ma série de 20, je fais 1, 1, 1, 1, et c'est mon battement. 1, 1, 1. Après, c'est 2, 2, 2, 2, avec mon rythme. En fait, quand tu fais ça, ben, c'est bon, t'es occupé. Pas de problème, t'es occupé. Ça devient même un rythme. Bon, des fois, je déconnecte. Des fois, c'est naturellement, puis je vais me mettre à réfléchir à quelque chose. À la course d'après, à ce que je mangeais, à l'écoute de mon corps aussi, évidemment. Hein, voilà. Et puis aussi, y a de la musique, des fois, donc j'essaie d'écouter la musique. Voilà, ça arrive. En natation, je fais pas d'auto-hypnose. Hein. Bien après, mais en natation, donc c'est trop dangereux. Voilà. Puis bon, tous les 20 longueurs, je sors la tête et puis j'ai mon équipe.
Suite, donc ton truc, en fait, ton truc pour pas penser, ta pensée pour pas penser, c'est d'avoir un rythme 1-1-1-1. Etc. Justement pour éviter. Et quand tu vois ces pensées, quand tu commences à penser à ce que tu as bouffé la veille, à ce que tu vas faire le lendemain ou la semaine d'après ou les travaux de ta piscine, combien de temps il te faut pour re-switcher sur ton rythme? Est-ce que tu te laisses le temps de vivre un petit peu cet instant ou au contraire tu te redis tout de suite oh là 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 17 17 17 17?
Ah non, au contraire. Ah non, quand je pars, alors moi c'est l'air. Quand je pars sur une idée, au contraire, je l'exploite. Ah, au contraire, je l'exploite. Mais j'ai quand même le rythme, en fait, parce que le rythme, en fait, on l'a. Le geste est tellement répété que je sais que je l'ai. Et puis, de toute façon, il faut surtout pas, c'est ça qu'on m'a appris, c'est ça qui m'a fait beaucoup progresser en même temps, c'est se déconnecter du temps. De toute façon, quand je commence une journée, alors un déca, tu vois, il y a un déca. J'ai des objectifs journaliers. Mais par exemple, je veux pas commencer mon objectif en disant, je sais très bien que j'arriverai pas avant la nuit prochaine. Donc, ça sert à rien. Donc, c'est arriver à occuper et de surtout, en fait, déconnecter du temps. Donc, si j'arrive à avoir une pensée où ça part ailleurs, ah bah, je laisse, hein, au contraire. Ah non, je laisse partir la pensée. Je laisse. De toute façon, mon équipe dira, là, t'es trop décalé ou autre. Ils vont me le dire. Hein. Mais au début, de toute façon, au début de l'épreuve, la natation, par exemple, on est content de bien finir. Mais l'impact, c'est tellement un triathlon, plus la distance est courte, plus la natation est importante. Plus la distance est longue, moins la natation est importante. Comme ça.
Parce que ouais, finalement, je me demandais pourquoi ils ont gardé la natation.
Mais c'est quand même là où je passerai le moins de temps. Parce qu'après le vélo, je vais y passer 100 heures, la course à pied 70 heures. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais
très bien. Comment le vélo? Comment tu t'occupes sur le vélo? Bah, tu peux emmener de la musique, tu peux faire des trucs, mais comment tu t'occupes?
Vélo, c'est interdit, la musique. Forbidden. Interdit.
Tu peux même pas emmener une petite enceinte Bluetooth?
Ah, de la musique extérieure peut-être. Alors moi, des fois, je prends mon téléphone et j'écoute des podcasts, effectivement, des podcasts ou des YouTube. Mais en fait, moi, j'écouterais pas forcément de la musique. J'écouterais quelque chose que j'aime bien écouter, bah, soit sur l'aérospatiale, ou soit de la Formule 1, ou soit là, suivant les périodes, c'est des trucs de la voiture électrique, bref, des choses comme ça. Mais j'écouterai ça, toi, par exemple, parce que ça va me faire aller penser à autre chose d'à côté. Quoi.
Tu dors à quel moment sur ces courses?
Ça, c'est la vraie stratégie. C'est là où ça se joue un déclin. C'est là où tu gagnes un ultra, c'est là où tu gagnes. C'est là. Il faut le dire à ce qui est, hein. C'est stratégique. C'est pour ça que dans l'ultra, pourquoi j'aime l'ultra, enfin, les distances plus longues, parce que l'ultra, j'aime bien faire du plus court, mais dès que la distance commence à devenir longue, c'est qu'il y a le sport, le physique, la performance, et il y a la stratégie. Et là, ça devient intéressant. Donc, le sommeil, évidemment, j'ai de la chance de pas être un dormeur. Voilà. En plus, j'ai jamais été un dormeur. Et, dans ma profession, je faisais du 3-8. Là, je rentrais de nuit, j'allais courir 10 bornes. Je dormais 2 heures, je recourais 10 bornes. J'utilisais la fatigue de la nuit pour faire un entraînement dans la fatigue. Sans faire la distance folle. C'est plus important, des fois, que de faire la distance. Et quand on dort sur un DK, ben sur un DK, mon record, c'est 8 jours, 11 heures, et je dormais en tout 11h45. En natation, évidemment, on ne dort pas. Enfin, évidemment, en tout cas, moi, je ne dors pas. Finalement, je commence à dormir la deuxième nuit. Donc, la deuxième nuit, on va dormir les premiers sommeils, des sommeils d'1h15. Sommeil paradoxal. Comme je suis un couche-tard, on fait en sorte de dormir le plus tard possible. Et de se lever avec le lever du jour. C'est plus facile. C'est plus facile de se lever. Là, quand je voyais déjà un adversaire commencer à soi-disant faire un premier sommeil à 22h, bah, j'étais mort de rire parce que je sais très bien, il va se réveiller à 23h et à 4h, il va se recoucher. Parce qu'en fait, te lever dans la nuit, bah, c'est biologique. Te lever en pleine nuit, c'est plus compliqué. Donc, il va redemander à se recoucher quand il verra les autres se recoucher. Alors, peut-être pas la première ou deuxième nuit, mais à la quatrième ou cinquième, il ira se recoucher. Se lever dans la nuit, c'est plus compliqué de se lever avec le jour. Là, tu peux faire une nuit blanche. Je prends un exemple. Tu fais une nuit blanche. Avec 2-3 heures, c'est chaud. Et le jour va se lever. Hop, ça va mieux. Tu le vois sur la Saint-Éyon, beaucoup comme ça. Ils ont un coup de barre, puis hop, le jour se lève. Donc, biologiquement, hop, le jour se lève, ça veut dire, je me lève. C'est plus facile et tu te réveilles. Donc, c'est des semaines 1h15 à vélo. À vélo, mon programme de travail, en fait, pour gagner, enfin, avant de gagner, pour être placé pour gagner à la fin, c'est nager. Oui, bon, nager entre, bon, il y a 13 et 17 heures, c'est bien. À vélo, arriver à fixer par temps de travail 450 bombes. Temps de travail, ça correspond pas à 24 heures, c'est plutôt entre la phase de dormir, rouler 450, et redormir, tu vois, c'est une phase de travail. Ouais. On va résumer en 24 heures, mais c'est pas tout à fait ça. Mmh. Puis ça pendant 3 jours, et le quatrième, voilà. Bon, au Mexique, par exemple, j'avais merdé à cause de la météo, j'ai un jour, j'ai fait que 400 bandes de vélo. C'est merde. Et j'étais pas content. Donc là, c'est moi qui ai décidé, j'ai changé le plan de la dernière nuit, j'ai dit, écoute, comme l'autre, j'ai su que celui qui était le plus fort vélo, en plus, avait le record de 24 heures à pied dans le Brésil. Je dis, merde, putain, mais en plus, lui, il va courir, mais pourtant, il semblait plus gaillard. Je dis, merde, ça va être aussi un adversaire à pied, il faut que je cravache un vélo, quoi. Là, j'ai décidé un truc un peu fou. J'ai dit, cette nuit, donc à la cinquième nuit, j'ai dit, je ne dormirai pas. Je ferai mes 500 bandes de vélo enchaînées du premier marathon tout de suite. Pour planter le décor, pour que j'ai au moins un marathon d'avance sur lui. Que je puisse après gérer pour de nouveau me reposer, parce que je sais que, en course à pied, la phase de sommeil allongé, des sommeils de 2h30, c'est là où tu crées tes anti-inflammatoires naturels. C'est comme ça qu'il m'a dit. Et du coup, tu redémarres, tu régénères vraiment ton corps. Mais il faut un sommeil d'au moins 2 heures pour arriver à faire les anti-inflammatoires naturels et du coup, pouvoir mieux courir parce que t'es plus porté. Donc, tu dors à vélo, voilà, des 1h15. Moi, je faisais coucher à 3h30 du matin, tu vois, pour repartir. Donc, 1h15 sommeil, mais ça inclut une partie. La pause est plus longue parce que on te masse. Ma femme, moi, on me faisait de la cryothérapie aux huiles essentielles. C'est une technique qu'on a nous. C'est une technique toujours pareil, la même personne qui m'a appris. Et manger, puis dormir, c'est 1h15. Puis réveiller, faire un petit déjeuner, même si c'est 1h15 après avoir mangé, mais tu refais parce que c'est des petites quantités. Là. Et tu repars ainsi, tu vois, petit déjeuner, hop, tu repars sur le site, donc ça va. Donc tu repars au lever du jour. Et tu repars jusqu'à la prochaine. Marathon, c'est différent. Marathon, le vrai sommeil sera le même. Et sauf qu'on va faire entre entre chaque marathon, on va faire un repas un peu plus long et un massage ou une cryo, dépendra comment je, ce que je demanderai. Et puis chaque fin de marathon. Et là, le but, c'est de tourner à 2,5 marathons par jour. Bon, par contre, bref. Et le dernier jour, c'est d'en faire. De pas faire, ça s'arrête. Donc, l'intérêt, c'est de, si j'ai assez d'avance, ben, par exemple, un mi-marathon, comme en moyenne plus d'autres, et ben, là, on va intégrer, parce que là, ça peut faire plus de douleur, on va intégrer des sommeils de 2h30. Alors, quand ça fait 4 jours, 5 jours, tu dors 1h15, quand tu dors 2h30, t'as l'impression de faire la grasse mat. Alors que, quand je vois un adversaire commencer à faire, au bout de la 3e nuit, un sommeil de 3h, c'est fini. Tu peux plus redormir une heure. C'est terminé. Tu peux pas revenir en arrière. Tu t'es habitué à ce confort, là, c'est fini. Il pourra plus dormir 1h30. Il aura goûté aux 3h, son corps, c'est terminé. Alors que nous, on démarre vraiment 1h15, 1h15, 1h15. Et du coup, quand je fais 2h30, j'ai l'impression de faire une sieste.
Il t'a fallu combien de temps pour développer cette stratégie et cette connaissance, cette routine assez fine finalement? 1h15, c'est pas 1h, c'est pas 1h30.
Bon, déjà, tout le temps. Enfin, même avant de faire du traité, je faisais déjà des fois 24h, j'adorais rouler en vélo la nuit, courir la nuit. J'aimais bien. Mon métier, je faisais 3-8. J'adorais ça. J'aimais bien. Même bricoler, des fois, la maison là où tu vois derrière, c'est une maison que j'avais dû faire en 4 mois et 45 nuits. 45 nuits en plus, voilà, je faisais ça. Donc, traverser une nuit, j'adore ça, j'aime bien. Ce qui m'intéresse, voir le coucher du soleil, le lever du jour, c'est un plaisir de voir ça. Et non, je suis pas malade, donc tout va bien.
Non, mais par contre, j'étais en train de me poser la question, ce garçon fait des décas Ironman, en est-il également à son 5e divorce?
Ah non. Non, mais j'ai jamais été marié. Je me marie pas, comme ça je divorce pas.
Ah oui, voilà, d'accord.
J'ai les enfants.
C'est fourbe comme technique. C'est fourbe.
J'ai les enfants. Alors, je déconne, on se marie l'année prochaine. Non, j'ai des enfants. Enfin, il y a tout. Il y a pas de problème. Non, par contre, oui. Je réponds tout de suite à une question.
Cruciale.
Souvent posée, oui. Et ce qui me fait avancer, moi, bon, là, tu l'as compris, parce que j'organise tout ça et tout. Par contre, beaucoup, par rapport à beaucoup d'autres, enfin, ceux de l'époque d'avant de l'ultra-trail, qui pourtant allaient moins vite, j'ai une vie sociale normale, même plutôt développée. Je ne suis pas un isolé, parce que j'en connais un autre, pas si son nom, puisqu'il y a Colmar, qui lui s'entraînait dans sa cave, dans le noir, en boucle. Non, moi je suis pas ça. J'adore des grandes boucles, faire des grands trucs. Je fais des boucles tous les jours de l'ultra-triathlon. Moi, j'aime bien les grands espaces. J'aime bien être dehors, comme je l'ai dit. Moi, je suis l'opposé de ça. Et donc, au contraire, j'aime bien faire avec d'autres, partager mes entraînements. J'aime bien tout ça. Je partage beaucoup. Donc, j'ai une vie tout à fait normale parce que je sais très bien qu'après le sport, j'adore ça. Mais quand j'ai quitté le tennis pro, de toute façon, j'avais tout de suite compris que même le sport professionnel, c'est même pas toute sa vie. On n'en vit pas toute sa vie. Il y a une vie après ça, quand on est blessé ou autre. Bah, le jour où on est blessé, bon, j'ai de la chance. Hein. Bon. Mais le sport peut s'arrêter du jour au lendemain pour un problème. Donc, il faut avoir une vie à côté. C'est important. Et ne serait-ce des fois pour le sport. Pour pas que le sport devienne aussi... Franchement, pour garder la motivation et le plaisir du sport, il faut avoir une vie à côté. C'est très important. Et ça, je...
Et le monsieur de la cave, lui, il a des résultats ou il est ou c'est un vrai triathlète blessé 80% de l'année. Désolé pour la blague, je vais pas pu m'en empêcher.
En fait, il était très lent, mais il a fait une époque où c'était lent l'ultra trail, on va dire. Il en a fait beaucoup. Il avait le record d'en avoir fait le plus et qui a été battu par mon ami suisse. C'est quelqu'un de plus rapide. Mais non, pas rapide. C'était un prof de sport en plus. Il avait sa vision, il disait même que c'était quand je faisais du trail, c'est une comment dire, mince, pas une ineptie, mais ça veut dire pareil, une c'était un non-sens. Mais je dis non, je suis pas d'accord avec ça.
Moi, qu'est-ce qui était un non-sens? Qu'est-ce qui était un non-sens pour lui?
De faire du trail. Pour lui, il fallait faire des boucles parce qu'on faisait des boucles. Je dis mais c'est absurde. Moi, si je fais des boucles toute l'année, mais j'ai même plus envie de faire la course. Moi, je fais le reste. Comme ça, le jour de la course, c'est un jeu de faire la boucle, de rattraper l'autre. Ça devient un jeu. course d'endurance. Si je fais ça tout le temps, non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien, tu vois, comme je disais, partir au Ventoux, on revient, voilà, avec des potes. En même temps, c'est une aventure, tu vois. Sortir d'autre chose, c'est une aventure, ça fait le moral aussi. Alors, ça aussi. Ça fait le moral, mais autrement, du coup, je grille pas les mêmes choses. Et pour, j'ai eu un accident de vélo, l'année où je devais me faire ma première Coupe du Monde. Enfin, non, non. La première, c'est plus de manches, mais pas la Coupe du Monde complète. Et j'ai fait une chute à vélo. C'est grave. Et, logiquement, d'après les médecins classiques, pendant 3 mois, je devais pas faire d'iron, quoi. J'avais un iron 4 semaines après. Alors, mon ostéo, toujours le même, m'a dit, là, je t'interdis de faire l'iron, par contre, dans 6 semaines, tu suis mon programme. Oh, il entraînait aussi, sur Marc aussi. Donc, j'avais pas le droit d'aller dans l'eau, j'avais des sinus pétés. C'est bon. Bon, là, de l'arcade. Mais que ça, j'ai du bol le reste. J'ai même fait de la course moto, j'ai fait des chutes, mais j'ai pas eu de l'eau, c'était. Et, il m'a dit, tu t'entraîneras comme je te dis. Donc, natation, t'en feras pas, t'as pas le droit. Mais il m'a donné son rameur, il m'a fait des exercices en dissociant les muscles. Et il m'a dit, en plus, tu verras, faire des exercices dissociés, fait que tu vas te renforcer des muscles que tu peux pas faire quand t'es dans l'eau, mais qui vont t'aider pour nager, notamment les triceps, pour pousser. Parce que, souvent en natation, moi, ce qui a fait le déclic, c'est que, souvent, tiens, on pousse pas. Donc là, pousser. Tu vas le faire. Et non seulement, en plus, tu vas pas user tes neurones dans l'eau. Tu vas pas user ces longueurs. Du coup, le jour où tu seras dans l'eau, bah, tu auras envie de nager dans une piscine. Effectivement, 6 semaines, je fais les championnats du monde sur un trip. Je fais mon record natation sur et j'étais pas dans l'eau pendant 6 semaines. Mais par contre, il m'a fait travailler tous les muscles qui m'ont servi à pousser et dissocier. J'ai juste fait 1000 mètres dans l'eau 3 jours avant. Et j'ai fait mon record. Et mais il m'a dissocié, du coup, j'avais cette envie, tu vois, t'étais pas usé de faire des longueurs, usé de ci, usé, t'étais pas dans l'eau, et il m'avait fait renforcer. Donc, t'avais pas l'usure psychologique, t'avais la préparation physique. Et à partir de là, du coup, on a eu des choses, on a changé en natation, j'ai revu certaines choses, tu vois. Et, parce que là, comme tu avais compris, je ne maîtrisais pas la natation. Mais bon, comme apparemment, j'ai le physique qui passe partout, je flotte bien et je suis assez plat. Et du coup, comme je suis technique, c'est pour ça que enfin, en tout cas, je m'en fous, même si je me blessais maintenant, j'avais 46 ans, je me blesse pas. Donc, voilà. Je suis technique. Faut que mes pieds soient droits. À vélo, faut que je sois d'aplomb. Puis en natation, faut que je sois d'équerre, on va dire. Côté un peu scientifique. Donc, comme je suis technique, eh ben, ça compense beaucoup de temps. Mais comme j'aime le sport, ben, souvent, j'en fais trop, quand même. Et pourtant, je pourrais en faire moins.
Ce sont des termes que tu te rappelles régulièrement. Je dois être d'équerre, je dois être d'aplomb. Et oui. Le troisième, c'était quoi?
Oui, des cas d'aplomb alignés, en vélo aligné. Mmh. J'ai même mis passer un temps des capteurs de pédale, des capteurs de puissance sur les pédales pour voir si j'étais bien symétrique. On travaillait là-dessus. C'était super. Alors ça, c'est un outil mieux que dans le moyeu parce qu'en fait, sur les pédales, on dit, ah, oh, c'est moins bien, mais non. On voyait bien la symétrie.
Bah, ça, c'était bien. Évidemment. Et l'expression pédaléron, elle vient pas de nulle part, hein.
Exactement. Et donc, c'était très intéressant. Et là où j'ai appris à tirer sur les pédales, un peu plus.
Bah. Très intéressant. Sans déconner. Et combien de temps on passe à apprendre la technique natation, combien de temps on passe à travailler la technique, la foulée, pour apprendre à griffer, pour apprendre à avoir une foulée dynamique, etc., des montées de genoux, des talons-fesses, toutes ces horreurs, en crawl, tous les éducatifs où tu viens toucher une main et tu repars tant que t'as pas touché, toutes ces horreurs, combien de temps on consacre à la technique du pédalage, en comparaison?
Alors bon, c'est difficile parce que pour moi la course,
on monte
c'est...
sur un vélo et on pédale, mais on se demande pas comment on pédale et on se demande pas si on pédale correctement.
Bon, au début, je d'accord. Au début, je pédalais comme tout le monde, mal.
Pardon.
Et j'ai appris avec le temps. Dans le club où j'étais en Ardèche, j'avais des férus du vélo qui m'ont commencé à expliquer effectivement la technique de pédalage. Et c'était encore plus vrai en fait quand on fait du plat. Parce que moi, j'adorais les montagnes. Le plat, c'était une horreur pour moi, une horreur. Et en plat, en fait, parce que je croyais que c'était nul, et en fait, le plat, c'est technique. En fait, il faut toujours du rythme, toujours lancer, toujours du rythme. Et là, c'est encore plus important de pédaler rond. Alors, sauf sur le vélo de chrono, on sait qu'on fait plus piston que tirer, c'est vrai.
Mais ça, la posture, c'est la géométrie même du vélo qui fait que ça facilite et que ça gomme un petit peu une technique désastreuse.
Mais bon, comme en ultra, je n'utilise pas de vélo de chrono, hein, j'ai un vélo traditionnel que je positionne, qui fait mixte, parce qu'il faut améliorer le confort. Parce qu'on roule pas à 40, donc c'est stupide d'avoir des vélos.
Bah, puis surtout, si t'as un vélo super rigide, super performant, mais que tu roules à 30, ça va avec la rigidité, notamment au niveau du boîtier, ça devient totalement contre-productif.
Mais les nouveaux qui arrivent en ultra, ils ont que ça, parce que ce sont des triathlètes purs qui croient que le vélo, le seul vélo qui existe sur la planète, c'est le vélo triathlon. Alors que moi, je ne viens pas du triathlon. Donc, je m'en fous de rouler avec une roue lenticulaire, je m'en fous de rouler avec un vélo qui a une forme monstrueuse, tu vois. Alors, j'aime bien les pilotes à vélo, mais c'est pas dire que j'aime bien le vélo. Tu vois, je change pas souvent de vélo. D'ailleurs, je garde la même, j'avais un sponsor pour changer de vélo, mais putain, je suis tellement bien, j'aimerais faire mon 4e DK avec le même vélo. J'adore ce vélo, je suis bien sur ce vélo, je suis bien posé sur ce vélo, je peux faire des heures, je suis bien, j'ai pas envie de changer.
Bon, c'est quoi comme vélo?
Un Pinarello, un Marvel, pardon. Maintenant, c'est le Marvel. Et contre la montre, c'est le Graal. Mais c'est un vélo puissant, mais moi, jusqu'à un Iron 5, jusqu'à 180, ok, je fais. Au-delà, je prends pas ce vélo-là. C'est une machine à puissance, mais c'est pas, moi, j'ai un Marvel qui est, qu'on a réglé avec un système rotel, un système où on met des capteurs sur le corps pour te redessiner, pour bien te positionner. Ça aussi, ça m'a fait fortement progresser. C'est un vélo qui est un vélo de route aéro à la base, qu'on a réglé, puisse faire les deux positions. Donc, t'es bien en aéro, mais tu peux te reposer et manger normalement. Parce que rester en aéro pendant 360 bandes, t'imagines bien que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens.
Je reviens sur tes termes d'équerre, aligné et d'aplomb. Tu te l'es dit à quel moment, ça? Ces petits rappels de posture, rappels d'efficacité.
Mais non, mais je viens du tennis. Alors, le tennis, les gestes, la posture, les répétitions, c'est pire que le vélo et la course à pied. Les gammes, faire des gammes en tennis, servir 100 fois, faire des retours, des volées avec un lanceur de balle en face de toi, c'est pire que du vélo, c'est pire.
Bah oui.
Pire. Et c'est chronophage, le tennis, hein. Puce encore, très chronophage, très très chronophage.
Donc il n'y a pas le paysage.
Et voilà. Bah maintenant aujourd'hui, je sais que je reviens au tennis, mais je me dis putain, est-ce que maintenant je traverserai la France pour faire un match dans un court tennis? Je sais pas. Je pense pas. Des fois, je rejoue juste pour le plaisir d'un copain ou d'une copine. Mais je me dis putain. Pareil, est-ce que je traverserai la France pour courir un 10 bornes? Non, je pense pas. Ouais, sauf si je suis en France là.
Aligné d'aplomb et d'équerre, ça tu te le dis à quel moment?
Ah mais tout le temps. C'est ça, en fait c'est dans un rythme.
C'est ton mantra en fait.
Ouais, c'est mon mantra. Des fois je m'en sers même dans la technique de d'autohypnose qu'on m'a apprise. Comme il faut que j'ai un leitmotiv, un des trois composants, il y a un leitmotiv, bah, ça peut être le leitmotiv du moment. Ça peut être celui-là. Bon, en course à
pied.
Donc
concentrer sur ton geste.
Oui, c'est ça. En course à pied, bon, c'est d'une nature, j'ai tellement répété ce geste depuis tout le temps. Mon père m'avait fait corriger une position de genou gamin très tôt. Donc, j'ai vite compris que c'était très important. Et, parce que je me rappelle de cette période-là. Et je sais que je voyais d'autres qui étaient toujours blessés parce que les genoux étaient rentrés en sortant. Donc, j'avais vite compris que le geste, en tennis, j'ai pas eu de tennis et de boule alors que là, je faisais des matchs très longs. J'étais avec Grosjean, j'étais en centre de formation avec Sébastien Grosjean. Je connais bien. Lui refusait de faire des entraînements d'endurance. Moi, j'adorais ça. Déjà. Donc moi, j'adorais. Et lui, je voyais qu'il se blessait parce que, justement, il voulait pas travailler les techniques. Ben voilà. Bon. Il était blessé. Moi, j'avais essayé de rester très technique. J'avais compris qu'une bonne posture articulaire, quand tu comprends les mécanismes, tu dis si t'es bien, tu mets moins de contraintes sur tes articulations et ça peut être que bénéfique. Donc, je touche du bois, franchement, mais depuis tous ces kilomètres fous, j'ai pas eu de blessure physique due au sport.
Alors après,
ça peut être génétique. On n'est pas tous égaux. Ça, on avait compris.
Ah ben non, on n'est pas. C'est absolument pas une science exacte. Quel moment tu te remémores ces gestes-là? Parce que clairement, tu ramènes ça du tennis, où c'est une vraie technique justement pour éliminer la pression.
Ah oui.
Et souvent, je réécoute réécoute les trucs de Brad Gilbert. Ouais. Ça me fait beaucoup rire.
En natation tout le temps, parce que pour une bonne simple, j'ai appris à nager tard et avec un coach, j'ai fait très peu de cours, mais il m'a appris, il fallait me le faire en accéléré, et lui aussi avait appris à d'autres, il savait, il apprenait à quelqu'un qui avait de la bouteille, donc il m'a appris juste des termes techniques, et comme je suis quelqu'un, voilà, scientifique, moi un gestuel technique, on me le répète, je me fixe là-dessus. Comme j'ai appris tard, il faut que je me répète ces choses-là parce que c'est pas quelque chose qui était inné en moi. Et en plus, je me remarquais que de me répéter, ça m'occupait aussi. Donc, c'est important. Parce que ça me fatigue, moi, la technique, en ce cas, natation, en fait. Technique, moi, j'en vois qui passent des, qui sont des 5000 par jour. Tu progresses pas, je dis, arrête, hein. Je dis, arrête, c'est pas ça, tu peux faire 5000 par jour. Si tu progresses pas, c'est que, il y a quelque chose qui va pas. Tu peux faire 5000 mètres de merde, hein, ça changera jamais. Hein. C'est hyper technique. Glisse. Après, à vélo, course à pied, je me pose plus la question parce que j'ai ça en moi, je sais, je suis né coureur, donc voilà. Par contre, si en course à pied, on y viendra après, mais je fais autre chose. D'ailleurs, il y a un podcast, une vidéo qu'on avait fait.
Venons-y maintenant. Alors, c'est quoi le miracle? C'est quoi le secret?
En course à pied?
Ouais.
Je cours avec 3 foulées différentes. Pour pas me blesser, je cours tous les 10 bornes. En général, je change de foulée. Je travaille parce que si je travaille sur la foulée traditionnelle, celle efficace, elle est bien. Et les quadris, au bout d'un moment, ils aiment moins bien. Alors après, tu vas faire la foulée du sans bornard, où tu vas faire passer les jambes sur les côtés pour travailler sur les fascia lata. Au bout d'un moment, c'est les fascia lata qui vont pas aimer. Donc, tu vas revenir sur des quadris. Puis à un moment donné, tu vas faire quelque chose d'un peu fou pour l'ultra. Tu vas essayer de courir sur les pointes. Griffer, comme tu dis, mais c'est un peu débile. Parce que c'est absurde, mais ça va soulager le quadri. Tu vas tirer derrière. Et donc, tu vas à chaque fois solliciter des muscles différents. Mais c'est important pour moi de se blesser, parce que ce qui blesse, c'est la sursollicitation d'un muscle. Alors, ça va pas être des blessures, c'est pas vrai, parce que ça va être des lésions. Bon, j'en aurai quoi qu'il arrive, parce que ça s'en banque, forcément, tu auras des lésions internes aussi. C'est inné. Mais il faut faire avec. Et changer de foulée aussi, c'est pas que musculaire, c'est aussi les appuis dans la chaussure. Donc, les risques d'entrée. C'est les appuis dans la chaussure, les échauffements. Changer les appuis. Donc, c'est ça. Moi, en course à piste. Bon, après, j'ai la chance d'avoir un pied fin qui va assez bien partout aussi. J'ai pas un pied énorme, donc moins de problèmes de frottement, parce que combien j'en vois qui découpent leurs chaussures et tout à la fin. Sachant que moi, en plus, j'étais sponsor de North Face, mais moi, j'ai eu un gros contrat Décathlon. Mais par contre, je voulais pas les chaussures au début, forcément. Ils m'ont dit, ah ben si, le gros contrat, oui, mais les chaussures. Mais par contre, tu participes au développement des chaussures. Ah, bon défi. Eh bien, écoute, j'ai mis non plus, j'ai participé au développement jusqu'il y a 2 ans encore sur les mêmes choses de trail. Bah, c'était quasiment les matériaux que j'avais dans la New Balance, hein, faut pas croire. Hein. C'est les mêmes matériaux, on a demandé les mêmes. Alors, c'est plus la pompe, c'est pas la pompe des gâteaux à 50 balles, hein, d'accord. Hein. Mais j'ai fait mes records avec, j'ai couru jamais non plus, j'ai fait les mêmes vitesses, tout pareil. Et ces pompes-là, à la fin, il est découpé. En plus, au Mexique, j'ai fait un vrai test avec la même paire de pompes, j'ai fait 9 des 10 marathons. Je changeais pas, alors je partais avec 4 paires, hein, parce qu'ils me fournissaient, mais j'aimais pas trop changer. Bon, il y a une autre petite astuce, c'est en course à pied. Et c'est mon ostéo, forcément. Parce que souvent, le problème, quand on court très longtemps, et qu'il fait chaud, avec la déshydratation, chaud, et le soleil qui tape sur les tendons, et j'aime pas, alors moi, je suis minimaliste, hein. Le truc de contention, des trucs compressifs là, tout ça, alors moi tu me connais pas. Si je pouvais courir à poil, je courais à poil, moi moins il y a de vêtements, mieux je me porte, hein. Donc moi j'ai la petite soquette, la chaussure normale, le short,
c'est les Saintes Marie de la Mer, ça,
ça je sais pas, mais je suis d'un père normand et mère bourguignonne, nous on est nés au sein, mais... mais si je pouvais avoir rien sur moi, c'est... tous les risques, tout ce qui enlève frottement sur le corps, c'est mieux, quoi. C'est ça. Et à la fin, ils avaient découpé la chaussure pour la mobiliser et tout. Et on développait les chaussures. C'est vraiment, c'est là où je changeais d'avis sur Décathlon, en fait. Mais bon, ils ont des bureaux d'études aussi. Bon, ils ont développé. Maintenant, c'est des chaussures à 100 balles, mais les autres sont à 200 balles.
Oui. Voilà. Ça aussi, on pourrait en parler. Tu vois, les distances ont explosé, mais le prix du matériel aussi, et les pompes à 300-400 balles, c'est plus du tout, c'est monnaie courante. Donc,
Consommable, parce que ces marques-là, souvent, pour tester, on m'a filé une paire de Hoka, parce que j'ai dit, c'est pas possible, elles sont déjà mortes. Et je cours pas plus vite, et je suis pas mieux. Mais elles sont déjà mortes. Donc, bon, bref. C'est un autre sujet, évidemment. La course à pied, qui était abordable, est devenue maintenant, elle aussi, bon, bref.
Et 2024, en... est-ce que tu vas te remettre à courir?
2024. Non, mais je cours. Hein. Je cours
avec... Oui, non, mais à cours avec un dossard, pas courir non, pour aller chercher
non,
le pain.
Ben non, 2024, c'est là. Je finis la maison. On en est là. Le permis de construire a eu 5 mois de retard. Ça m'a foutu en l'air. Hein. Non, je n'aurais pas. Fin d'année, peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas. c'est pas possible. Parce qu'en plus, la course que j'organise me prend du temps. Donc là, pendant ça, je peux avancer la médaille. Mais peut-être vraiment en toute fin d'année. Mais non, je ne pense pas. Bah, du moins, ce serait bête, je ferais rien de... Je cours, oui. Alors, je ne nage pas actuellement. Si, dans la piscine, mais un petit peu. Et je cours, oui, je cours avec mon chien, mon border collie, la mascotte qui a eu juste 2 ans, donc j'ai pu courir. Alors.
Comment il s'appelle? Togo, c'est ça?
Togo, ouais.
Ouais, j'ai vu les photos, il est magnifique.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il est mignon.
Avec lui, il avait 4 mois et demi, on a fait l'aller-retour en natation du lac de Gérardmer, 4 bornes, nager. C'est un chien en or, magique.
C'est un border collie, tout simplement.
Voilà, c'est un border collie.
C'est un border collie et ça se passe d'explication. Comment tu gères l'entre-deux-courses? Il te faut combien de temps? Alors déjà, tu finis dans quel état physiquement et mentalement? Et comment tu, combien il te faut de temps avant de pouvoir remonter, de remettre tes baskets, de remonter sur ton vélo, sans le regarder avec une pointe de vomi qui arrive?
Oh non, jamais.
T'es jamais écœuré à l'idée de voir ton vélo et de te dire, putain, faut que je rentre dans mon cuissard.
Non, dans un des cas, j'accompagne les copains sur la boule du lit. Et au Mexique.
Ça veut dire que tu t'es pas donné à fond, tu pourrais te sortir un peu les doigts quand même, hein. C'était encore du jeu à la fin.
Ah oui, c'est vrai, j'avais fait 2, là, j'aurais pu faire. Mais au Mexique, j'avais fait 1er. Et à la fin, dès le lendemain, on était visité les pyramides. Et en Floride, avec ma femme, je fais le double. Bon, c'est un double. Mais j'étais bien préparé, donc le double, j'avais bien digéré. On fait le double et je dors pas et on est allé faire Walt Disney. Donc. Non, et à vélo, on faisait le parcours à vélo, on baladait à vélo. Non, écœuré, non. Non, par contre, en compétition, en entraînement, par contre, reprendre l'entraînement après un gros truc, je me laisserai toujours les cycles que j'avais. C'est qu'après, bon, après un décal, je laissais au moins 5-6 jours, hein, ça c'est clair, sans faire d'entraînement. Et après, j'y retourne juste pour faire du décrassage, entre guillemets, on va dire. Du plaisir. C'est à quoi, au contraire, j'y vais, mais c'est-à-dire, j'y vais même, genre, je vais dire des bêtises. Je vais aller dans l'eau juste pour le plaisir de me détendre dans l'eau et je vais peut-être nager, je sais pas, 750 mètres. Là, juste plaisir. Et puis, j'aurais fait un footing, ou 10 bornes. Juste par plaisir. C'est vraiment le plaisir de dire, oh là, je le fais. Juste parce que j'aime le sport. En fait, c'est tout simplement ça, j'aime ça. Mais du coup, là, tu le fais en disant, bah, tiens, je fais un footing. Bah, tiens, je vais aller nager. Tiens, je vais nager juste me détendre et puis je m'arrêterai quand j'ai juste pas envie. Quoi. Ça, c'est le plaisir que t'as après une grosse épreuve, c'est de dire je fais. Puis tout te paraît facile, parce que t'as fait un gros truc, tout te paraît facile, tu le fais, et suivant comme t'en veux. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien dans l'ultra. C'est ce que j'aime dans l'ultra, même après un ultra vélo, ce que tu veux. C'est de dire, après une fois, t'as fait ce gros truc, et ben après tu peux faire tes couilles pendant un certain temps, tu vas faire de l'entretien. Et ces moments-là, j'adore. De toute façon, j'aime peut-être plus le chemin de l'entraînement, tout autant que la course, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le parcours pour y arriver est des fois plus passionnant que la course en elle-même. Et c'est ça que j'aime bien. Tu fais ça avec des potes, tout ça et tout. Ouais. Mais venir au ultra-vélo, on en parlera en off, tu vois. Mais bon, c'est pas ça, c'est que je veux pas, c'est que c'est le planning. Enfin, ça, je fais plus d'ultra-trail, parce que l'ultra-trail, en fait, la course à pied me fait beaucoup gagner en ultra, en ultra-triathlon. Hein. Si la course à pied était bon, mais j'adore le vélo. Alors, par contre, j'adore le vélo parce que j'adore les voyages vélo. J'adore faire du vélo longtemps. Voilà, faire des périples. Quand on a fait le tour de Normandie, il y a 1300 ans, je me suis régalé.
Si du jour au lendemain, tu pouvais plus gagner en ultra tri grâce à ta course à pied, est-ce que tu continues?
Déjà, je gagne forcément moins.
Oui, mais alors, imaginons, demain, pour une raison X ou Y, tu peux plus gagner grâce à la course à pied.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes ou tu continues?
Ah ouais,
passion pour le sport ou t'arrêtes justement parce que tu peux plus gagner?
Bah, je gagnerai plus au scratch, mais je gagnerai peut-être dans une catégorie.
Ça compte pas, ça c'est une excuse de triathlète, ça. Tu fais 2 centièmes au général. Ouais, mais je fais 4e de ma catégorie d'âge, dans les 60-65. Oh.
Ouais, mais tu verras, quand on aura 60 ans, on sera bien juste réfugié là-dedans, parce que là, c'est vrai qu'on est encore.
Alors, comme tu dis, c'est un refuge. Mais faut quand même voir la vérité en face. C'est qu'à cet âge-là, on n'avance pas. Faut arrêter de se prendre pour un jeune quand même.
Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais bon, à un moment donné, il faudra quand même trouver une motivation. Alors, là, actuellement, c'est qu'on est dans l'entre-deux où on sait qu'on peut encore, mais pas tout le temps, mais voilà. Donc, si je pouvais plus du jour à l'autre, non, mais je continue, mais c'est sûr. Mais parce qu'il y a des distances, déjà, le double. Bon, j'étais surpris, la dernière fois, j'ai fait un double, j'étais super bien placé, j'ai sorti un super chrono. Mais pourtant, je sais que maintenant, ça va être, sur le double, ça va être un peu qui tout double. Je sais très bien que quand je vais sur un double, ça va être je vais plus gagner, ça va être compliqué. Vraiment, ça dépendra vraiment qui j'ai en face. Et si j'ai maintenant quelqu'un qui actuellement mène sur le double, je sais très bien que je pourrais même pas gagner avant de démarrer. Mais j'irai quand même, je me donnerai à fond pareil parce que ce sera mon plaisir personnel, ou au moins battre mon record personnel qui est déjà très bien, ou de me dire tiens voilà il y a ça quand même, putain, déjà le plaisir de faire, de retrouver les autres, puis de me dire ouais mais il y a ça, je vais bien me placer sur le double et je le niquerai sur le quintuple, bon. Voilà,
bravo, bel esprit. Bravo, belle mentalité. Ah non, mais t'as raison de me dire, ouais, l'ultra, ce qui m'a plu, c'est l'esprit, mais quand on peut niquer les autres, allons-y, quoi. Très bien, belle mentalité, j'applaudis.
Ben, l'inverse.
Bon, ce qui veut dire que malgré tout, tu es quand même un petit peu plus attentif au processus et à ce que tu pourrais améliorer que quand même à la performance pure et dure et à l'adversité.
Ben oui, sinon j'aurais déjà arrêté.
Sinon, t'arrêterais.
J'aurais certainement déjà arrêté. C'est juste à rien, je peux plus gagner. Comme je disais, le double, non. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que sur les doubles, maintenant, sur les doubles, on a plus, enfin, il y a 12 ans plus jeune, et maintenant, c'est de plus en plus jeune. Donc, sur des doubles, maintenant, tu vois, des très jeunes, qui viennent des gars, là, je te dis, le record sur le double, je sais pas si tu le connais, mais le record sur le double à l'heure, il est en moins de 18 heures. Enfin, 18h20, donc 9h10 par Iron, mais on continue. Tu vois un peu là où on en est, quoi. On est à 39 de moyenne sur un 360 bandes de vélo, quoi. 39 de moyenne. Donc, évidemment que ça, maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Mmh. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi je dis on aura plaisir après, c'est parce que souvent, ce sont des one-shots sur deux doubles. Tu peux trouver des gars qui ne sont pas forcément l'esprit ultra-famille, qui vont juste faire un double, tu vois, parce qu'ils ont découvert ça, qui n'ont pas encore cet esprit. C'est pour ça que je dis, OK, tu vas faire le malala, mais attends, on va y aller. Mais à l'inverse, par contre, parce qu'évidemment, on a un mot dans l'ultra triathlon et que j'ai inculqué aux ultra runners parce que j'organise des échanges de 5 marathons et des 24 heures run, donc je peux leur mettre ça et je leur oblige à faire la même règle du tour à l'envers avec ton drapeau de son pays à chaque fin de course. Parce que j'adorais ça, c'est l'esprit de ta famille, c'est la compétition, c'est vrai, c'est la compétition, mais dans le fair play. Parce qu'à l'inverse, tu vas aider quelqu'un. Si je prends des exemples, au Mexique, un gars s'était cassé la gueule en vélo, il s'est assoupi, il s'est pris un animal, je sais quoi. Il tombe et il y avait un médecin dans les coureurs, et lui a interrompu sa course, il était allé à l'hôpital pour l'opérer là-bas à l'hôpital. Ils sont venus tous les deux. Parce que sinon, il était pris plus tard, il a dit, OK, j'arrête la course. C'était un Argentin. Et cet Argentin, eh ben, je l'ai proposé. L'Argentine, l'économie argentine, ça s'est écroulé, hein. Il est médecin argentin, il gagne équivalent de 300 euros par mois. Tu vois. Donc, se payer une course en Europe, pour lui, c'est compliqué. Donc là, j'ai dit, écoute, j'ai envie que tu viennes. Il m'a rien demandé, il n'osait rien me demander. J'ai dit, je veux que tu viennes sur le championnat du monde du quintuple que j'organise. Ben, il y en a depuis derrière moi. Dans le mois de juin, fin juin. J'ai dit, écoute, viens, et je te fais. Bon, ça va s'égoûter, mais de toute façon, c'est ma course, j'ai créé, je fais ce que je veux. Après tout, j'ai proposé une forte remise pour compenser son billet d'avion. J'ai dit, il faut que tu sois là. C'est pour moi, il faut que tu sois présent. On doit aussi t'aider à venir, à être présent, parce que c'est économiquement pour toi, c'est compliqué. Mais j'aimerais que tu sois là, quoi. Donc on aura 21 pays. J'ai fait ça aussi avec la Canadienne. Bon, elle, c'est pas économiquement, mais j'ai fait venir mon amie canadienne. Et puis mon ami brésilien, que j'avais battu au Mexique. J'ai proposé de venir. Donc je l'ai fait venir. Donc mais lui, j'ai tendu la main. Et pour qu'il vienne. Et cet esprit, en fait, c'est ça, c'est la compétition. Mais il faut que t'aies des. Moi, je suis content. Or moi, je peux pas faire la course que l'organise, parce que c'est bien trop complexe. Et moi, je suis content quand il y a plein de monde et plein de courses et plein d'athlètes, plein d'adversaires, tu vois. Mais ces adversaires, c'est aussi du fair play, tu vois. S'il faut aider quelqu'un, tu vas l'aider, tu le laisses pas par terre. C'est pour ça, quand j'ai dit ça, c'est niqué, c'est une motivation pour dire, OK, tu m'as eu là, mais attends, moi, je vais me préparer, je vais t'avoir ailleurs. C'est vraiment dans l'esprit sain, c'est pas dans l'esprit.
Oui, c'est niqué dans le bon sens du terme.
Oui,
le meilleur moment.
Dans le sens.
Oui, bah, surtout que demain, c'est la Saint-Valentin, on peut se permettre de parler comme ça.
Ouais, c'est vrai, j'ai fermé la porte tellement de temps. Ouais.
Non, mais t'inquiète pas.
Voilà.
Laurent, Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure justement sur cette question du mental de l'ultra? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais finalement assez naturellement, ou est-ce que ce sont des questions et des réponses qui sont venues progressivement? Et je te laisserai conclure là-dessus. Et avant que tu n'apportes ta conclusion, je te remercie et on continuera en off.
D'accord. Alors, savoir que je serais bon dans l'ultra, non, j'ai été surpris. Par contre, savoir que je devenais un métronome et que j'aime ça, en fait. Mais l'ultra, c'est pas linéaire, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il y a des attaques, il y a des cycles. On est bon, dans une journée, on est bon, pas bon, bon, pas bon. Et il faut savoir accepter, pour être bon en ultra, pour savoir accepter quand ça va pas, pour que ça passe plus vite ce moment où ça va pas, pour être plus fort après. Parce qu'évidemment, sur 8 jours, même sur 24 heures, même sur 12 heures, le corps, il est pas linéaire comme ça. Donc, ça va accepter quand ça va pas, pour que ça passe plus vite. Pour accepter. C'est comme quand il y a la fatigue pendant la nuit, faut pas lutter, faut ralentir. Et pas sursolliciter le corps pour que cette fatigue passe et repartir. Ça, c'est la règle. Première règle de base, accepter quand ça va pas. Et puis surtout, c'est de faire vraiment avec le plaisir, j'ai envie de dire avec le plaisir. Et moi, je pense que dans l'ultra, c'est comme je disais avant, c'est le sport, la performance, plus la stratégie. On n'a pas parlé de la stratégie pendant le DK, quand on fait croire qu'on va se coucher pour faire coucher ton adversaire, mais tu repars tout de suite. Ça aussi, c'est intéressant. Ou dans la nuit, planquer derrière un arbre pour faire croire que t'es à l'arrêt. En fait, toujours en course, l'autre croit que t'es à l'arrêt. Donc voilà. Il y a de la stratégie aussi, il y a des petits coups de ruse et ça fait partie des choses. Mais en fait, le sport, c'est le plaisir. Peu importe la distance, je dirais, c'est le plaisir. Si t'as pas le plaisir, c'est faire d'abord pour le plaisir. Si c'est pour se fixer des entraînements et être mal, malade et arriver le jour de la course, exténué, et si c'est pour être, comme j'en connais, des champions du monde de l'entraînement qui viennent juste à l'entraînement pour te niquer la gueule, comme on dit, et puis le jour de la course, ils aiment pas la concurrence, ils voient pas. Moi, ça sert à rien. Moi, en entraînement, tu fais un entraînement avec moi, tu vas voir, tu vas dire, mais c'est cool, c'est pas ça. Non, mais en entraînement, quand je fais le foncier, c'est cool. Par contre, on approche de la course, on va faire du fractionné, ou du seuil, plutôt du seuil à vélo. Voilà. C'est ça. Mais le plaisir de l'entraînement et le chemin, le pied du chemin pour y arriver, quoi. C'est ça.
Quand tu dis le plaisir, je suis désolé, je vais pas conclure là-dessus parce que tu me titilles.
Ouais.
Le plaisir, c'est quoi là? Tu viens de le dire un petit peu, le plaisir de l'entraînement, mais est-ce qu'on peut préciser un petit peu ce terme de plaisir? Quand on entend justement pas mal de monde dire « moi je le fais pour le plaisir, je vais essayer de me faire plaisir », ou pire, quand on entend un athlète professionnel un matin d'étape sur le tour dire « moi je vais essayer de me faire plaisir », c'est quoi le plaisir? Et il est où le plaisir? Et c'est quoi cette... Est-ce qu'il est ulti? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est multiple?
Ouais,
c'est quoi?
Oh, il est multiple parce que... Voilà. Il est multiple parce qu'il peut être dans le physique même. C'est-à-dire te dire, tiens, je vais faire ça. Et après, quand je vais rentrer, je serai bien. Tu vois, ça peut être ça dans l'endorphine, quoi. Tu vois, ça,
l'anonymie. Oui, une pure montée d'endorphine.
Voilà. Ça peut être ça. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, c'est un moyen naturel. Forcément, t'es bien après le reste de la journée. Ça, c'est un peu mon plaisir. Ça peut être le plaisir de monter au Galles, j'aime la nature. Je me fais plaisir parce que voilà, je vais faire un endroit que j'aime bien aller. Et voilà. Et je vais courir avec mon chien. Heureux de courir avec mon chien, ça c'est le plaisir d'accompagner. C'est le plaisir de courir avec quelqu'un, de partager. Tiens, je vais te faire découvrir ça en courant. C'est aussi un des plaisirs. Il est multiple. Le plaisir de courir
en
étape et de courir le soir et de faire une nuit en refuge et de repartir le lendemain. Il est multiple, le plaisir. Il est dans le physique.
Et en course, le plaisir, il est où? C'est quoi le plaisir?
Ah,
c'est
pas ça. Ah oui, ça va être... Pas dire le lieu où je vais faire la course, ça peut être ça aussi, tout simplement, une nouvelle course. Mais quand ça fait plusieurs fois que tu l'as fait, ben, ça va être d'améliorer, ça va être là le plaisir. Et ça va être le plaisir aussi, ben, après d'être bien aussi, d'être arrivé au bout. Ça aussi, c'est le plaisir d'être arrivé au bout. Ça, c'est clair, hein. Première chose, le premier plaisir, c'est d'arriver au bout. C'est clair. Et puis après, tu peux améliorer.
Et ça, c'est la finalité. Pendant, quand t'es à ton troisième jour et que éventuellement ça commence à mal aller, ou que t'as un petit coup de moins bien, ton plaisir, tu t'en fais quoi? Tu te dis dans 5 jours j'aurai fini, ça ira super bien, je serai content.
Non,
Sur le coup, qu'est-ce que tu te dis justement pour faire passer ce petit moment de moins bien?
Alors je sais pas, ça sera
plaisir. Est-ce que tu te projettes 5 jours plus tard, ouais. Ou est-ce que tu fais quoi?
Alors il faut se projeter. Alors je me projette, ça c'est vrai. Souvent moi j'ai du mal d'ailleurs. Souvent mes potes ou mon équipe me disent mais projette-toi, vous vois-toi passer la ligne d'arrivée. Je dis, sauf qu'en ultra, tu la passes tout le temps, la ligne d'arrivée. Mais bon, ouais, je me projette de voir la ligne d'arrivée, mais tu la places plein de fois. Non. Par contre, ce sera peut-être pas le mot que je disais, mais la satisfaction de se sortir de ce moment de bas. Là, ça sera plaisir de sortir de ce moment où ça va pas. De dire, ah, j'ai réussi à battre ce démon qui me faisait dire, qu'est-ce que je fous là? Tu vois, par exemple, à un moment donné, qui s'est pas dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Et c'est battre.
Tiens, on y arrive.
Hein?
Il aura fallu une heure pour que tu dises enfin un mot intéressant. Je suis désolé.
Ah, mais si, alors souvent,
alors, c'est quoi moi... c'est quoi ton démon?
Ah, moi, mon démon, alors, le qu'est-ce que je fous là, je me le dis dès le premier quart d'heure. Et après, c'est fini. Et après, c'est fini. Ah, mais je te jure, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Et après, c'est passé.
Alors,
et
c'est moi, quoi la pa... c'est quoi, comment tu lui fermes sa gueule à ce petit démon?
Ben non, c'est quand de... c'est, je pense que c'est le moment, la première demi-heure où le corps, en fait, bah, tu sais, tu commences, c'est comme quand tu commences à courir un footing, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour être, oh, tu sais, où tout rentre en phase et où tu cours sans plus réfléchir à tes mouvements, ou où tu rentres en accord avec toi-même et avec ton environnement. Et quand tu rentres dans ce moment-là où tu te sens dans ton environnement, ben voilà, ça passe. Et à partir de là, ben, ça roule, tu sens que c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as envie de faire, que tu dois être là. Ça m'est arrivé une fois un abandon, mais c'est même pas pour du physique. En plus, j'étais très bien placé. Mais j'ai voulu aller sur un ultra seul, un trip. Là, je faisais la reprise après les travaux d'ici. Oh, je dis à ma femme, on est que j'écoutais, venez pas. Oh, l'erreur, j'ai fait. L'erreur. Venez pas, je vais aller à mon trip à Lenzane, je vais y aller moi, vous faites pas chier, vu que je veux pas chercher un chrono, je vais pas vous emmerder. Oh, quelle erreur. L'horreur. J'avais personne autour. Si, alors du coup, j'ai pris, mener la femme d'un copain qui était là-bas. Alors, ok, mais c'est pas ton équipe. Ça, c'est pas pareil. Parce que la différence entre l'ultra tri et le tri normal, là, c'est avec une équipe. C'est très intéressant. Donc, avec assistance, enfin, assistance dans une boucle. Hein. C'est pas l'assistance tout le tour.
Oui, oui.
Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je suis pas à ma place. L'horreur. Je dis, ma femme est là-bas. Ils sont là-bas. C'est pas ma place. Qu'est-ce que je fous là? Et là, je me sentais pas être là où je devais être. Et pourtant, putain, j'étais bien placé. Mais pas moyen, je devrais pas être là. Là, j'avais sorti de...
Donc, t'as explosé dans la tête.
Ah ouais, explosé, mais très calmement. Très calmement. Non, j'ai dit, je vais m'arrêter. Et j'avais un gars que je coachais. J'ai dit, écoute, je continue encore avec toi, je vais t'amener jusqu'à la moitié. Mais je sais, je vais m'arrêter. Je t'inquiète pas, je m'arrêterai à tant de kilomètres. Je vais le faire. Et à tant d'heures, à 14 heures de cours, je m'arrêterai. Mais je vois, je fais. Mais je sais, je m'arrêterai. Et c'est tout, mais c'est réfléchi. Je m'arrêterai au bout de 14 heures de cours. Ça me fera la prépa présent, mais j'ai rien à faire. Le speaker, Bernard, que j'ai un speaker là, qui était plus qu'un speaker, c'est un ancien athlète qui est très empathique, qui m'a toujours adoré, qui m'a aidé au début à comprendre en allemand, machin, les tenants de la course. Je me dis, non, Laurent, tu ne peux pas. Et pleurer. Pleurer que j'arrête. Depuis, c'est quelqu'un avec qui je travaille là. J'ai dit, non, écoute, Bernard, ne pleure pas, je t'assure, cette fois-ci, c'est, tout va bien. Mais c'est juste que je sais que je dois pas être là. Et j'ai arrêté ma course. Pas de problème. J'ai fait mes 900 bandes de voiture pour rentrer, pour retrouver ma femme. Mais j'ai pas eu de problème. Et j'ai eu aucun regret. Mais parce que je savais, déjà avant d'y aller, je pense que j'ai eu des doutes. Je me suis dit, ah, putain, qu'est-ce que je fais? Même si ça me fera le mental d'y aller seul. Bon, quelle erreur. En fait, ça faisait pas du tout le mental du tout, parce qu'en fait, non, pas du tout. Et puis, au contraire, je me suis dit, tiens, pour la première fois, je me suis dit, mais non, en fait, t'as rien à foutre là. Tu dois pas être là. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Oh, je sais pas combien de courses. Et bien après, ça m'est pas arrivé. Hein.
Mais est-ce que c'est la première fois ou la seule fois que tu courais sans ton équipe de soutien?
Non, la deuxième fois. La première fois, c'était en Floride pour des questions économiques. Au début, voilà, j'avais pas sponsor comme j'avais pu avoir après ou autre. J'étais allé seul, juste j'avais pareil. La compagne, un ami allemand qui est sur la course, qui m'a secondé, mais comme suivant en même temps, on avait tellement de différents niveaux que ça devenait compliqué à gérer.
Et ça s'est passé comment sur cette course?
Natation bien, parce que j'étais loin, donc je pense que je pouvais pas revenir. J'étais en Floride, donc je pouvais pas revenir. Je pense que c'était différent. Je me dis là, il faut que j'y aille. Là, t'as fait le chemin, t'as fait la route, il y a des dépenses. Puis là, j'avais ma femme des fois au téléphone, Là, je faisais. Et natation bien, à vélo très bien, j'étais en tête jusqu'au moment où c'est là où j'ai compris qu'une équipe est extrêmement importante, où il y a eu un bug de non comptage de tout, et de premier, notre troisième, c'est quoi ce bordel? Alors, je savais que c'était promis. Mais il y a eu un bug et là, il fallait se défendre. Et là, j'avais personne pour me défendre. Donc, je commençais à m'arrêter pour dire, mais non, il y a un problème. Non, mais fais ton tour, tu reviens après. Putain, ça commençait à m'énerver. Et là, je commençais à m'énerver. Et du coup, bah, j'ai fini troisième. Parce que ça m'a énervé, ça m'a fatigué. C'était, bah, tu sais, l'influx, ça m'a bouffé mon influx. Et ça m'a merdé. Du coup, en course à pied, ça m'a rendu malade, tu vois, tout ça et tout. Et j'ai fini troisième. Deuxième fois, j'étais avec ma femme. Je fais deuxième. Troisième fois, je suis avec la femme et les enfants. Sous les deux, j'ai pas forcément l'équipe. J'ai ma famille, mais qui sont habitués à faire mes enfants, ils savent faire des rallyes. Enfin, sur double, triple, je peux y aller avec des amis. Pas la grosse équipe. Je suis pas toujours la grosse équipe. Des cas, oui, c'est là. C'est l'équipe, on va dire, mais. Et troisième fois, avec les enfants et tout, j'ai fait dernier tour avec les enfants, je vais gagner. En améliorant à chaque fois. Donc, j'y suis allé seul, mais j'étais loin, il y avait un truc autre, j'avais pas de solution auto, et j'étais préparé pour, parce que là, c'était une reprise, j'avais fait une reprise, je savais que c'était le seul que j'allais faire de la saison, enfin, du moins, que je pouvais pas jouer la Coupe du Monde, j'allais en faire un ou deux, mais, ça avait démarré trop tard, je pouvais pas faire la Coupe du Monde, donc je savais que ça avait pas un enjeu majeur, et je pense que je me suis dit, oh, c'est bon, ça me rassure pour le prochain que je dois faire, tu vois. Tout allait, en fait, dans le sens où, c'est bon, quoi. C'est, par rapport à ce que j'avais préparé, ça suffit. Et je souffre pas, j'étais bien placé, je sais que pour le prochain, je sais bon, la reprise est bonne. Et en fait, tout ça a conclu que voilà.
Est-ce que l'équipe, elle est juste là pour t'amener le ravito?
Ah non.
Ou est-ce que c'est un dernier rempart?
Ouais, non.
Pour te défendre.
Rôle extrêmement important, et plus la distance est longue, plus la vitesse est importante, et du coup, elle doit être intransigeante. Je sais pas si t'as vu sur le site Bretzelmann, ou quoi, ce qui est pas à jour, mais tu peux quand même y aller. Il y a une vidéo de l'équipe Bretzel Team, bon, qui date de 4 ans. Mais peu importe, il y a mon ostéo, tu verras cette personne, une de ces personnes qui a parlé. Et elle, ce qu'elle dit, bon, il caricature, il dit, j'avais pas envie de gagner. Bon, c'est pas vrai, mais, c'est lui, une des personnes que je vois beaucoup, qui m'a beaucoup appris pour le trav. Enfin, que lui, il y a FX aussi qui m'a appris pour l'auto-hypnose, hein. Me couper ma relation avec le temps. Parce que vu que je venais du cours, l'obsession, c'est le chrono. Bon. Donc l'équipe, non. Par exemple, moi, j'ai un tableau de marche. Si je suis pas dans le tableau de marche, elle me dit, je suis en retard. Bon, pas à chaque tour non plus, mais elle me dit, bah, c'est bon, ou ralentis, là, tu vas trop vite quand tu reprends en course à pied, tu peux temporiser. Hop, t'as pas mangé, hop, faut que tu manges là. Me tenir le manque, parce qu'au bout d'un moment, t'as plus envie de manger ou autre, donc tu manges pas. Donc, ils te préparent, ils t'obligent à manger, mais des fois, ils ont le droit de faire un tour. Quand tu vas te coucher, ils font dormir, mais c'est toi qui te réveilles, parce que des fois, c'est pas naturel, hein, forcément, donc il faut
bah,
qu'il soit dur, puis il faut qu'il soit dur. Là, il faut pas qu'il soit dans l'empathie. Là, il faut vraiment, même s'il me voit, non, il faut y aller. Ouais, il faut qu'il me, faut pas qu'il, là, dans ce cas-là, là, j'ai envie de dire, pas que c'est gentil avec moi en fait. Donc non, c'est hyper important. Même des fois pour passer le temps. Hein. Tu passes, tu dis une connerie. Ouais, des fois on a un jeu, pour passer le temps, je peux t'en citer d'autres. Hein. Les blagues courtes, chaque tour, je fais une blague courte. Hein. Toi, tu m'en sors une, puis je suis mort de rire. Et puis on... Des fois on rigole. Premier des cas, tout délirant avec un autre athlète allemand. On parle en anglais parce que je parle pas allemand. On dit, putain, ça fait 200 fois qu'on fait la boucle, 200 fois que je vois ce château, j'aurais fait 38 bandes de neige, 1800 vélos, 422 à pied, j'ai même pas visité la ville dans laquelle je suis. J'ai même pas vu la ville. Non. Sur des boucles, donc des fois, on part sur des délires avec l'équipe. Ouais. Non, l'équipe, c'est, pour gagner. Tu peux faire une course sans équipe. Mais pour gagner. Sur des distances comme ça, c'est pas ce que tu veux. Il faut une équipe. Okay. Puis en plus, ça fait un autre plaisir. Tu gagnes avec une équipe. Et tu partages ça. Et tu peux partager ça. Parce que c'est vrai que c'est des sports individuels, mais là, finalement, t'as moins l'impression d'être tout seul. Tu partages ces moments. Puis même maintenant, quand tu vois certaines courses qu'on a fait il y a 10 ans, 9 ans, ben, tu remémores des choses et tu partages. Avec des fois des non-sportifs. Des fois des non-sportifs. Moi, un gars qui m'a compté à ma piscine pendant 15 heures, il est resté, alors j'ai dit, mais non, mais tourne avec toi. Non, moi, je reste toute la natation. 15 heures, il reste à me compter, à vérifier mes comptages de natation. Il est non sportif. Mais passionné. Bon. Voire supporté.
Laurent, on va s'arrêter là. Je pense, bon, on va faire la deuxième conclusion. Hein. Tu veux dire quelque chose pour conclure une deuxième fois?
Non, 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 non.
Oh, ça va alors.
C'est bon, ça suffit. Ça suffit.
Bien, écoute, je te remercie.
Si vous voulez venir, on fait l'ultra triathlon.
Eh ben, écoute. Bah oui, maintenant, l'info est passée.
On organise quand même, voilà. On
arrive. Les gens sont grands, donc si l'idée d'aller faire le Bretzel Ultra Triathlon 2024 les intéresse, eh ben, je peux pas les en empêcher, tout simplement.
Bah, chacun
ses problèmes.
Le quintuple est complet déjà. Bon, c'est champion du monde, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'ultra triathlon. Il reste des places sur le double et le triple, puis les challenges marathon.
Et ben voilà, avis aux amateurs. Voilà, si vous avez plus de place sur la raf ou sur un Breaking Man, vous pouvez venir au Bretzel Ultra Tri.
Ouais.
Et voilà.
Mais ce serait trop bien.
Je coupe.
Ça marche.
Merci Laurent. Attends. Hop.